the sun of the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Oh yeah.
Il est 20h passé de 3 minutes et tout de suite, vous allez pouvoir retrouver une nouvelle émission de Génération Sport. Et bonsoir à tous et bienvenue sur Radio GLE 101.5 FM pour votre émission sportive de la semaine. C'est Génération Sport, vous en avez l'habitude, hein, tous les mardis de 20h à 21h. On est ensemble donc pendant une heure pour parler de toute l'actualité sportive et notamment l'actualité locale. On y reviendra notamment en deuxième partie d'émission. Avant de vous présenter le sommaire, je vais vous présenter ceux qui sont avec moi. Aujourd'hui, l'équipe est un peu moins garnie que la semaine dernière, mais il y aura, voilà, il y a les titulaires de cette année qui sont là avec nous. Faustin est à ma gauche. Salut Faustin.
Salut.
Un dimanche compliqué pour toi?
Ouais, j'imagine. J'ai pleuré devant ma télé samedi soir. Dimanche soir.
C'était compliqué avec cette défaite de l'équipe de France.
Ouais.
Les Espagnols qui nous ont battus. On y reviendra évidemment donc dans les actualités sportives. Cédric est également avec nous. Salut Cédric.
Salut tout le monde.
La forme?
Ouais.
Bon week-end.
Ouais, c'était cool de jouer à Madden 2023.
D'accord.
C'était plus intéressant que le basket au final.
Ah oui, effectivement le basket, ça nous a pas réussi, ça nous a réussi bien vendredi. Vendredi, grosse victoire.
C'est clair.
Contre la Pologne. Puis après, effectivement, dimanche, ça a un peu pêché. Mais bref, voilà, donc on va revenir là-dessus au programme de l'émission. Donc, comme je vous l'ai dit, l'actualité sportive, locale. Il y a un gros programme également ce soir, parce qu'il y a trois équipes angevines qui jouent en même temps. Donc, ce soir, d'ailleurs, je crois que les trois matchs sont à Angers. Donc voilà, on regardera un petit peu les scores pour ceux qu'on peut avoir. Et puis, on va parler dans la deuxième partie émission du public angevin. Voilà, on va parler un peu de ce qui se passe notamment au niveau du SCO. J'ai préparé une petite chronique à ce sujet et puis on débordera sur voilà, le cas des supporters de façon générale à Angers avec les sports angevins. Et donc on verra ça, on essaiera de voir pourquoi des fois ça manque de spectateurs, en tout cas de ferveur. On verra ça donc en deuxième partie d'émission. Et Faustin nous a préparé une chronique. Tu peux nous dire maintenant ce que c'est?
Ouais, ça parle un peu, ça allie mode et sport. Je vais parler de chaussures et de maillots en tout genre.
Donc voilà, ce sera juste après la pause musicale. Bah on va commencer tout de suite avec les actus et le SCO qui a signé sa deuxième victoire de la saison en Ligue 1 ce dimanche à Nice. Le match a été marqué notamment des coups d'envoi par le carton rouge reçu par Jean-Claire Todibo au bout de 9 secondes de jeu après un tacle sur
Abdallah Sima. Record de France,
je crois que même record d'Europe, enfin bref, dans une moindre mesure. Donc c'était vraiment un record, mais franchement c'est du jamais vu. Hein.
C'est
9 secondes, littéralement 9 secondes. La faute est commise à 5 secondes.
On va peut-être expliquer pourquoi il prend le carton rouge. Ouais. Donc il y a une action pour le SCO qui va vers les buts.
Il y a un coup d'envoi déjà.
Voilà. Et du coup, il y a un léger accrochage. Hein. Pour moi, c'est plus, il touche plus le pied, mais il n'y a pas volonté de blesser et d'annuler l'action de but. Et l'arbitre considère que limite c'est le dernier défenseur.
Alors que
quand on voit les images,
on voit très bien que pas du tout.
Pas du tout. Il y avait du monde, en tout cas, qui était légèrement décalé. Donc peut-être ok. De ce point de vue-là, mais on voyait qu'il y avait quand même un joueur qui revenait. Alors bon, l'arbitre n'est pas censé savoir que le joueur effectivement. Mais bon, on a notre magnifique VAR.
Et qui n'a pas été utilisé.
Je crois que c'était le temps qu'il l'allume. Hein.
Ah, bah oui, bah, 9
le temps qu'il finisse le café dans le camion, tu comprends. Pourtant, ça se jouait à Nice, il me semble.
Oui, ça jouait à Nice.
Oui, donc il faisait chaud quand même à Nice ce dimanche. Donc,
Ah, il était à la plage.
Donc voilà. Ça se trouve, il était à la plage.
Non, mais ouais, voilà. Enfin, encore une fois, la Ligue 1 qui se ridicule. Enfin, l'arbitrage de la Ligue 1 qui se ridiculise. Il y a eu un deuxième carton rouge aussi un peu litigieux dans un autre match.
C'est Reims. C'est Reims où le joueur fait un dégagement et en fait en redescendant son pied, ce qui est un geste naturel en fait, puisque voilà, et bah ça retombe sur la cheville du monégasque. Et c'est vrai que on voit les images, c'est assez vraiment dommageable quoi. C'est donc deux erreurs flagrantes plus. Donc je vais revenir après parce que le match ne s'est pas terminé à ce carton rouge. Donc à 11 contre 10 pendant toute la première mi-temps, les Angevins ont vu la délivrance arriver par l'intermédiaire de l'international algérien Nabil Bentaleb qui ouvre le score d'une splendide frappe en lucarne hein, qui permet au SCO de passer devant. Et à l'heure de jeu, c'est au tour du Marocain Sofiane Boufal de se faire exclure après un deuxième carton jaune reçu pour une simulation dans la surface niçoise. Pour avoir vu l'action, il est effectivement touché. Alors, est-ce que ça siffle pénalty? Je ne sais pas. Est-ce que ça siffle simulation? Je ne pense pas pour le coup. Voilà la rencontre qui se termine donc à 10 contre 10. Finalement, donc les Angevins sont restés devant au tableau d'affichage jusqu'à la fin du match et ont obtenu 3 points précieux qui leur permettent donc de sortir de la zone de relégation. Ça se passe un peu mieux pour le SCO.
Et surtout un 2 sur 2 de Yaya Touré titulaire et premier clean sheet.
Yaya Touré,
Yaya Fofana.
Yaya Touré, c'était un autre joueur.
C'est pour ça en fait que ça tient mieux.
Effectivement. Yaya Touré, effectivement, milieu de terrain de Manchester City dans les années 2000 et 2010. Non, effectivement, il y a Fana qui fait un. Maintenant, il avait pris un but hein, contre.
Ouais, c'est son premier clean sheet.
Premier clean sheet, effectivement, tu as raison. Et donc, ça se passe plutôt bien pour lui. Un bon changement pour le coup, on peut le dire, de la part de Baticle.
Match, du coup, qui va coûter la place de l'entraîneur de Nice.
Oui.
Puisque. Il n'y a rien d'officiel, mais apparemment, il y aurait une entente entre le club et l'entraîneur pour se quitter à l'amiable. Et ils auraient déjà trouvé le futur remplaçant, un certain entraîneur du PSG.
Maurice Lapoche.
Qui serait intéressé par le projet niçois.
Mauricio Pochettino, qui est effectivement visé par Nice pour succéder à Lucien Favre. On suivra ça, effectivement.
On aurait déjà notre premier tête d'entraîneur qui tomberait
effectivement
en Ligue 1,
assez tôt quand même.
Assez tôt, j'avoue que.
Et puis pour le coup, la défaite, si je suis du côté de Nice, c'est assez injuste au vu du carton rouge au bout de 9 secondes. Quoi.
C'est bien.
Bon, bref. Voilà pour Angers. Rien à rajouter, messieurs. C'est une bonne victoire quand même qui relance un peu le score.
On va espérer que la trêve là va pas faire trop de mal à la dynamique, mais. Ouais. J'ai vu le programme, il y a quand même pas mal de repos quand même.
Ouais. Tant mieux, peut-être.
Ouais, je sais pas.
C'est peut-être la meilleure solution.
Peut-être que ça aurait fallu, ouais, peut-être un peu plus travailler. Faut voir quoi.
Il y a pas mal d'internationaux. Il y a.
Ouais, il y a ça aussi. Donc.
Il y a Utunji, il y a Bouffal et Unai, il y a Yaya Fofana qui est avec les Espoirs. Il y a Valérie, Yann Valérie, la recrue là, qui a rejoint au dernier moment la Tunisie. Donc voilà, on
après,
verra
quand
si.
Quand on voit le nombre de blessures qu'il y a en équipe de France. C'est peut-être
à
un
tout moment,
de...
Pierre Capel arrive dans l'équipe. ça peut arriver à tout moment.
Non, mais en tout cas, ça.
Oui.
Ça montre déjà qu'il voilà, va bien falloir protéger les joueurs jusqu'au moins à cette Coupe du Monde.
Oui, c'est hyper important. Ouais, ouais.
Donc peut-être ouais, qu'effectivement, ce repos-là, sur ce point de vue-là, va être bénéfique, en tout cas là-dessus.
Oui, là-dessus, il n'y a pas de doute. On va enchaîner avec le SCO Handball, match nul hein, des Angevins à Saintes, 30 partout, les Angevins qui sont deuxièmes du championnat derrière la réserve du PSG Handball. Et ce week-end avait lieu également le tournoi ProStar à Jambouin. Et si Cholet n'a pas forcément brillé, c'est un autre joueur français qui a fait parler de lui dans le dernier jour du tournoi. Faustin, est-ce que tu vois de qui je parle?
J'imagine 2m24.
Exactement.
2m43 envergure.
Exactement.
Je crois bien voir qui c'est.
Effectivement, Victor Wembanyama. S'est amusé clairement. Il y a eu donc une vidéo notamment qui a tourné sur les réseaux sociaux. Il s'est clairement amusé avec sa nouvelle équipe des Metropolitans de Boulogne. Voilà. Est-ce que tu sais qui a gagné le tournoi ProStar?
Non, j'ai pas pu y aller. Mais bon, j'imagine que c'est eux. Hein,
ouais, je pense que ça doit être les Mets. Effectivement, les Metropolitans 92 qui ont dû gagner. C'est vrai que Cholet apparemment n'a pas forcément brillé. Il y a un match important qui va commencer. Ce sera, je crois, vendredi. Un beau Asvel Cholet, je crois. Hein. Donc, ça va être
à Cholet ou
je ne sais pas. Je crois, c'est peut-être à la Meyrée. On verra ça.
Pour bien commencer la saison.
Exactement. Donc ce soir, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, il y a un gros programme pour les équipes angevines. Tout d'abord, en tennis de table, les Loups d'Angers affrontent Torigny-Fouillard. Il s'agit de leur premier match de Pro A. Évidemment, voilà, les Loups d'Angers, on le sait, qui sont double champions de France en titre. Ils vont d'ailleurs inaugurer leur nouvelle salle qui se situe près de Montplaisir et qui voilà va être parfait pour eux et pour leur rêve de three-peat. Et pourquoi pas un peu d'Europe pour les Loups d'Angers. Également, il y a les Ducs d'Angers qui vont affronter les Pionniers de Chamonix. Cédric, tu me dis si je me trompe, est-ce que c'est à la Spark ce soir ou c'est à Chamonix?
Il me semble que c'est à l'extérieur.
Ce
je
sera
ça tout de suite, mais
c'est peut-être donc c'est soit à Angers soit à Chamonix. En tout cas voilà, vendredi dernier, défaite contre Rouen des Ducs.
Ouais.
Voilà, c'est que le début de la saison.
Ouais, et puis c'est une défaite aux prolongations.
Oui,
parce qu'à la fin des il y avait 3-3. Ouais. Angers qui ouvre le score assez vite en première mi-temps.
Mais il gagnait pas 2-0 je crois.
Il faisait ouais avec ouverture je crois à la 6e et à la 7e.
OK.
Le 7e ou 8e, enfin en tout cas ça a été assez vite pour le 2e. Et bah, forcément, hein, on sait que ça va être un match de toute façon, même si c'est le début de saison, toujours à enjeu. Voilà, c'est Rouen. Et j'ai pas pu le voir, mais je pense que voilà, le spectacle devait être là.
Ouais.
Je crois qu'ils ont pas changé de gardien, donc voilà, quand on voit la performance déjà que le gardien faisait l'année dernière. On peut imaginer que cette année, il va être aussi fort, donc ça va être encore un adversaire de
taille.
Voilà.
C'est des vrais classicos, hein. C'est
Angers. Ah bah c'est oui, de toute façon c'est
une grosse rivalité.
Des matchs à pas rater.
Clairement, ouais.
Pour le classement, ça c'est sûr.
Et puis le troisième match, c'est l'Étoile Angers Basket qui commence sa saison par de la Coupe de France et ils affrontent Toulouse à Jambouin. Pour le coup, je crois effectivement que c'est à Jambouin.
Moi, ouais, je te confirme, donc c'est bien un Chamonix. Ça.
D'accord, c'est bien un Chamonix pour les Ducs d'Angers. On va passer sur l'international avec. D'abord un peu de tennis. Alors on commence d'habitude par le football, mais on va commencer par le tennis avec la Coupe Davis. Hein, vous le savez, elle a été un peu remaniée récemment. Hein, voilà, elle va durer 2 semaines dans 3 villes différentes. La France a été éliminée en phase de poule au bout de deux au bout de deux confrontations, après des défaites contre l'Allemagne et l'Australie. Les quarts de finale, ce sera Italie-États-Unis, Allemagne-Canada, Australie-Pays-Bas et Espagne-Croatie. Voilà pour la Coupe Davis, où il n'y a pas forcément de grosses têtes d'affiche. Autre info tennis, évidemment, c'est l'annonce de la retraite de Roger Federer, qui va attirer sa révérence à la fin de la Laver Cup. Hein, la Laver Cup, on rappelle, c'est cette petite compétition qui se fait s'affronter les meilleurs tennisman européen contre le reste du monde. Voilà, messieurs, Roger Federer, en plus, c'est vraiment un sportif de légende qui parle aux plus jeunes comme aux plus expérimentés. Est-ce que vous avez peut-être un souvenir comment vous verrez la légende de Federer dans le tennis mondial, dans l'histoire? Faustin, toi, tu...
Ouais, bah,
sur moi, tu connais Federer.
Oui, bah,
merci.
Bah, j'ai fait un an de tennis. Ma raquette de tennis, c'était une raquette de Roger Federer.
Bah, voilà.
Donc, ça dit un peu tout.
Traverse les époques.
Exactement. Donc, moi, personnellement, c'était mon joueur préféré.
Ah oui, en plus.
Ouais. Nadal. Donc, il a eu une fin de carrière un peu compliquée quand même. Mais c'est une grosse page qui se tourne dans le tennis avec Alcaraz qui gagne. Un grand chelem et
qui devient numéro mondial.
Voilà, et Federer qui s'en va, c'est vraiment les jeunes qui prennent plus la place.
Ouais, on le sentait depuis certaines années. Toi, Cédric, est-ce que tu as un souvenir avec Federer? Est-ce que c'est un joueur que tu appréciais déjà?
Il y en a plusieurs, hein. De toute façon, il y a ses passings, il y a ses échanges, ses retours improbables.
Son revers à une main, je le trouvais incroyable. Ouais, j'adore les revers à une main. Moi,
c'est la mentalité du
en plus,
joueur.
Ouais.
Enfin,
très humble.
Très humble.
Voilà, en Suisse, quoi.
Alors moi, ça faisait un petit moment quand même, je le disais, hein, que de toute façon, hélas, avec ses blessures... fallait s'attendre qu'à chaque fois qu'on le voyait jouer, c'était la dernière fois.
Ouais.
Et c'est vrai que, hélas, cette année, on n'aura pas eu l'occasion vraiment de le voir, quoi. Il y a eu très peu de matchs. On va savourer forcément la Laver Cup. Mm-hmm. Je pense que, voilà, même s'il sera peut-être pas au top niveau de sa forme, mais je pense qu'il va vouloir aller la chercher histoire de finir son
bien sûr, et puis surtout
son belle victoire. Et puis
la rencontre paraît assez déséquilibrée parce que déjà il y a le Big Four qui est réuni avec Djokovic, Nadal, Federer et Murray. En plus de ça, je crois qu'il y a Casper Ruud et Tsitsipas, donc c'est assez impressionnant. Et en face, il y a pas grand monde parce que déjà Medvedev n'est pas là, voilà, il y a pas forcément de grosses têtes d'affiche, donc ça devrait aller pour les même s'ils sont vieux, pour les Européens, ça devrait le faire.
C'est ça. Et puis bon, par contre, il manquera toujours un titre, hélas.
Et oui,
ce sera le titre olympique en individuel.
C'est le seul qui lui manque.
Je crois que c'est quasiment le seul qui doit lui manquer.
Est-ce qu'il a Roland Garros? Oui, il a Roland Garros.
Oui, il a Roland Garros.
Il a tout.
Une fois.
Cet homme a tout.
Une fois, la nuit où Nadal.
C'était à Wimbledon aussi qui était très fort. Hein.
C'est son jardin, ouais,
c'est clairement son jardin. Il était vraiment monstrueux, les matchs contre Djokovic, c'est entré dans la légende.
Mais c'est vrai que du coup, pour le tennis, il y a vraiment une grosse page qui va se tourner. Hein. Mm. Entre Serena, bon, même si on ne sait pas, mais bon.
Non, mais c'est vrai que ça fait deux gros matchs.
Ce qui est comique, c'est que c'est quand même deux joueurs qui s'apprécient énormément,
ouais,
qu'on fait beaucoup de matchs d'exhibition ensemble. Enfin, c'est vraiment quasiment la même génération.
Qui s'en
du
va.
Tennis, et ça va faire un grand changement. Et il y a un Nadal qui est pas loin non plus de partir.
Ouais.
Djoko est un peu
années,
plus jeune.
Plus que Nadal, je pense.
Voilà,
il a encore quelques années dans les jambes.
Mais le tournant là du tennis mondial masculin va commencer à bien s'entamer là. Et puis tant mieux, hein, quand on voit les jeunes qui arrivent derrière.
Ouais. Donc voilà, c'est la nouvelle génération qui prend le pas sur l'ancienne, mais en tout cas voilà, Roger Federer qui va quitter le circuit ATP après tant d'années de succès et de grands chelems. Voilà pour le tennis. Au niveau du football, c'est assez chargé également. Tout d'abord, la Ligue des Champions de la semaine dernière, le PSG s'est fait peur contre le Maccabi Haïfa, mais l'a emporté 3-1, et l'OM a montré un triste visage contre l'Eintracht Francfort avec cette défaite 1-0 à domicile. En Ligue 1, Lyon a perdu le choc de la 8e journée de championnat contre le PSG au Groupama Stadium, 1-0. Pour le retour de Mandanda à Marseille, Rennes a décroché le nul 1-1 contre l'OM. Lille a battu Toulouse 2-1. Reims a perdu pied contre Monaco 3-0. Nantes et Lens se sont quittés sur un score de parité 0-0. Lorient s'est rapproché quant à lui du podium grâce à son succès à la Baie des Champs contre Auxerre 3-1. Et puis il y a eu également il y a un rassemblement, donc la trêve internationale, on a un peu parlé avant. C'est donc Deschamps qui a annoncé sa liste. Il y a énormément de blessés. Déjà, entre le moment où il a annoncé sa liste et le moment où on parle actuellement, il y a eu 5 forfaits, sachant qu'il y avait déjà beaucoup avant. Je crois qu'en total il y en a 12 ou 13
sur le 11 titulaire habituel.
Il y en a 6 ou 7.
J'ai cru voir un article, c'est 4 ou 5 joueurs qui restent.
Ah, qui restent, oui, ouais. Bah, donc oui, ça fait pas beaucoup.
Ça fait un bon 50.
Ouais, ça fait plus de 50%. Ouais, oui, ouais, ouais. 50%. Mais c'est assez énorme. Et du coup, parmi les nouvelles têtes qu'on voit à Clairefontaine, il y a l'ancien Nantais Colomwani, qui est du côté du coup maintenant de Francfort. Il y a Fofana, Youssouf Fofana, et non pas Yaya, qui est donc milieu de terrain à l'AS Monaco. Au poste d'arrière gauche, il y a eu un vrai imbroglio puisque Théo Hernandez a été remplacé par Luc Adigne, qui lui-même a dû déclarer forfait et a dû être remplacé par Truffert, hein, le Rennais. C'est tombé d'ailleurs ce matin. Également, il y a eu la convocation un peu surprenante, selon moi, de Loïc Badiachil, le défenseur monégasque. Voilà. Et puis, dans les buts, Lloris, hier, également, a déclaré forfait. Et c'est donc Alban Lafont. Beaucoup de gens l'espéraient un jour en équipe de France.
Lloris, il se blesse sur son dernier match avec Tottenham.
Mais je crois même pas, parce que je l'ai vu arriver à Clairefontaine. Donc ça, je comprends pas. Peut-être qu'il faisait des examens.
Moi, j'ai eu l'impression, d'après ce que j'ai compris, que c'est pendant le match de Tottenham qu'il serait blessé. Donc,
mais après, il a dû, je pense, faire ses examens justement.
Oui, mais après, des fois, les joueurs, malgré qu'ils soient blessés, ils sont obligés de venir au rassemblement pour que le médecin de l'équipe de France constate.
Voilà, c'est ça. Peut-être
que c'était pas si alarmant que ça. Mais en tout cas, voilà.
Donc voilà, Alban Lafont qui va, je sais pas s'il va être, il va faire sa première cape, en tout cas voilà, qui intègre le groupe après tant d'années d'attente pour lui, hein, lui qui a commencé très tôt à Toulouse.
Mais hier après-midi déjà, ça sentait le moisi, comme on dit. Il y avait quand même pas mal de joueurs qui s'entraînaient à l'écart et qui faisaient que des petits footings. Ouais. Généralement, on a toujours au moins une dizaine de joueurs, voilà, qui font du travail. Et à côté de ça, ouais, il y en avait à peu près sur les 10, peut-être 5 qui étaient en train de faire du footing. Ah
ouais.
Il y en avait un, je sais plus qui faisait des trucs à part, justement. Donc, ça a senti un petit peu mauvais déjà.
Donc voilà, parmi les absents, on peut citer donc Lloris, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Kipembe. Kanté, Pogba, Benzema, Luc Adigne également. Enfin, il y a une flopée de joueurs qu'on peut encore citer comme ça. Et donc, voilà, ça fait un effectif, je trouve, assez jeune. Est-ce que ça va suffire pour nos deux matchs? On rappelle que donc on jouera le 22 contre l'Autriche et le 25 contre le Danemark. Et l'enjeu, il est quand même important, c'est de se maintenir en Ligue A de la Ligue des Nations. Et il faut savoir que les Bleus sont derniers de leur groupe actuellement, avec seulement 2 points. Et il va falloir vraiment gagner avec un effectif assez jeune. Donc, comment vous les sentez ces matchs? Est-ce qu'on peut descendre? Est-ce qu'on peut assister à une mauvaise préparation?
Après, on sait ce qu'il y a cette coupe. Au final, elle est juste là pour que l'UEFA se fasse de l'argent. Donc, en soi, autant qu'on joue les deux matchs avec des jeunes, quitte à se planter, au moins eux, ça va leur faire de l'expérience. Et il y a quand même, voilà, la Coupe du Monde qui va arriver derrière. Ils vont avoir besoin d'expérience.
Ouais.
De temps de jeu. Donc en soi, est-ce que c'est grave qu'on descende en Ligue B?
Enfin, on affrontera des adversaires quand même beaux de moins.
Voilà, enfin.
De moins bon niveau.
Ça prouvera peut-être que voilà, on est peut-être des fois comme un peu le PSG dans son dernier match en Ligue des Champions, c'est
un peu suffisant.
Voilà. Donc ça remet ça remettra peut-être les choses en place pour certains joueurs, pour certains, même peut-être pour Deschamps, hein, au final, des fois, ouais. Dans ses choix tactiques, on a l'impression qu'il ne respecte pas l'adversaire, hein, depuis.
Ouais.
Donc, non, là, enfin, en soi, qu'on les joue, de toute façon, on sait qu'on ira pas en finale de ce tournoi. Donc,
il faut se maintenir quand même.
Ouais, mais encore, je te dis, ce serait pas.
T'as pas envie qu'on se maintienne.
Bon, on souhaitait. On va descendre, on remontera l'année d'après.
Oui, voilà, c'est donc, vrai. Voilà. Beaucoup, ouais, c'est possible. Donc voilà, les matchs qui vont arriver.
Et puis bon, ça va peut-être. Voilà. Quand on voit toutes les histoires qu'il y a autour de la fédération française, ouais. Peut-être que ça fera un bon balayage aussi, voilà, de se prendre un bon échec là-dessus. Et
pourquoi pas
en Coupe du Monde et...
On verra ça. Je vois que l'heure tourne, hein, puisqu'il est quand même 20h27 et voilà, on a pas mal de choses à faire dans cette émission. Un dernier mot effectivement sur l'actualité sportive, c'est le basket, puisque après une phase de groupe chaotique et des huitièmes plus d'écart miraculés, les Bleus abordaient le dernier carré de l'Eurobasket avec la farouche envie de décrocher une médaille, et ce fut chose assurée après le large succès contre les Polonais en demi-finale 96-54. Dans une finale qui sentait la poudre face aux Espagnols, les Bleus ont mal négocié leur début de match et après être revenus en début de troisième quart-temps, ils ont craqué sur la fin de la partie. Cette nouvelle médaille donc d'argent a été donc obtenue. C'était donc plus d'un an après celle obtenue aux Jeux de Tokyo. Faustin, donc tu as pu voir les deux derniers matchs. Qu'est-ce que tu en as pensé, notamment de la finale? Est-ce que les Espagnols étaient trop forts? Est-ce que la France était très mauvaise?
Ouais, bah, j'ai envie de dire, c'était un match type de l'équipe de France dans cet Euro, avec il y avait encore plus de 20 pertes de balles, un truc comme ça. Ouais. C'était les choix de Vincent Collet, je les ai trouvés assez moyens.
Ah
notamment,
ouais,
je pense, quand Hernan Gomez, il commence, il met 2-3 points d'affilée sur jeu placé, et après il nous fait passer en zone. En défense de zone, okay. Et la défense de zone fait qu'il y a beaucoup d'espace à 3 points. Et il nous en remet après 3 coups sur coup. Donc ça les met vraiment, eux, les Espagnols en rythme, et nous, au contraire, beaucoup moins.
Okay.
Donc je pense qu'après mettre Evan Fournier en capitaine, c'était bon pour cette finale. C'est malheureusement le seul match qu'il a fait où il était vraiment remarquable, j'ai trouvé.
Ok.
Je l'ai dit pas mal de fois, où justement on a besoin de le retrouver. Malheureusement, là, c'est Yabusele qui a été un peu en dessous, je trouve, dans cette finale. Mais bon, il n'y a pas que du mauvais à tirer de cet Euro, même si on a été miraculé un bon nombre de fois. C'est quand même une médaille d'argent.
Voilà, ça se prend. Et est-ce que c'est quand même positif, donc, cette médaille, malgré le niveau de jeu des Bleus, d'avoir réussi quand même à avoir une médaille d'argent? En sachant également un autre truc, c'est que donc il y a le mondial en 2023 et il y a également les Jeux en 2024. Il y en a beaucoup qui parlent du fait qu'il y avait pas mal d'absents, que pour l'avenir on pourrait compter à la fois sur un Wembanyama, pourquoi pas, à la fois sur un Joel Embiid, dont on a parlé dans l'émission, plus Nwankwo et Batum qui n'étaient pas là. Est-ce que toi tu penses que ça peut être envisageable d'espérer mieux pour la suite?
Bah ouais, je pense, hein, si on a Wembanyama et Joel Embiid qui débarquent dans la raquette, on va sentir la différence. Peut-être collectivement ça va être un peu moins bien, mais offensivement ça va être magnifique, hein, sérieux.
Ouais.
Après on peut pas se dire que ça, quoi, parce qu'on avait quand même des excellents joueurs sur le terrain.
Ouais.
Notamment je pense aussi à Terry Tarpe, qui a fait
un très bon euro.
Je crois que c'était son premier
il
euro.
Il était assez monstrueux. Hein.
Ouais,
lui qui évolue au Mans,
ouais.
Et qui a vraiment été épatant et qui nous a sauvé un peu sur le quart ou le huitième, je sais plus. Mais...
C'est le huitième où il fait l'interception. Voilà.
Et c'était assez beau de le voir. Mais en tout cas, voilà. L'équipe de France qui repart quand même avec une médaille. Et assez inattendu quand même.
Ouais.
Au vu du niveau de jeu, c'est assez miraculeux.
On a eu de la chance.
Et au basket, je trouve que c'est assez. Parce qu'on a au football, on a l'exemple de pas mal de nations qui ont mal joué mais qui ont gagné quand même. Au basket et par exemple au handball ou de sport, sur un sport comme ça, sur la durée avec des points, c'est vrai que c'est compliqué d'être mauvais mais de gagner quand même.
Ouais, c'est vrai.
Après, faut pas oublier une chose, c'est que déjà de base le championnat d'Europe, contrairement à d'autres sports, est vraiment beaucoup plus relevé que la Coupe du Monde en basket. Ouais. Et là, cette année, fait rare, c'est que les équipes avaient leurs joueurs titulaires NBA ouais. dans leur équipe.
Et autre
donc,
point,
en ouais. soi, être, enfin, de se faire rouler comme ça par les Espagnols. Voilà, ça montre que l'Espagne, même quand ils n'ont pas leurs joueurs NBA, ils sont déjà très forts et qu'ils ont un vivier en fait.
Ouais. Voilà. Mais un autre point effectivement intéressant, c'est que en plus d'avoir eu été miraculé donc en huitième et en quart, il y a eu cette chance, je sais pas, mais ce côté effectivement où tout te réussit dans le sens où Jokic et Jovic et Doncic pardon ont été sortis rapidement, enfin éliminés alors qu'on était censé tomber sur eux et que voilà, ça a été des exploits de la part d'autres équipes.
Ouais, c'est clair.
Donc voilà, on verra ça dans les futures années si Vincent Collet et son staff arrivent à faire une équipe assez collective et assez une équipe de gagnants surtout. On l'espère. On va passer à la pause musicale, il est déjà 20h32, on va s'écouter Alpha One et Nekfeu sur le titre AAA.
Oh my god.
Tous les quartiers du 15. J'ai mis tout le premier album dans le Cosma, vu large comme sur le boulevard d'Haussmann. Ma ville est bâtie au-dessus des ossements. Je suis qu'un homme, je pardonne même quand mes saussements. Je suis avec mon frère, ça t'as dû le voir. C'est pas un pompier mais c'est un soldat du feu. Du rap hardcore mais je suis mal à l'aise quand y'a des types qui chantent à tue-tête. Soit t'as du talent, soit t'as du flair. Soit tu t'aides, soit t'es sous tutelle. Soit tu t'es, soit t'ouvres ta lugue. Ma lugue fait de ça avant que tu t'aides. Oui, m'éloigner des associateurs, me rapprocher des associations. On ne recrute que des gens corrosifs. On veut pas de mollassons, on veut pas trop d'acteurs. Tu sais déjà, si je rentre dans l'histoire, ce sera en équipe, je vais pas entrer seul. Une Rolls Royce, ça se fait en 6 mois. Et une Toyota, ça se fait en 13 ans.
J'ai pas l'air de la chanson de l'année. C'est pas celle qu'on écoute dans l'allée. Je m'y suis frotté quand il fallait. Petit blanc infâme et nique un blanc affalé. Je regarde mon village de la falaise. Depuis des millénaires dans la vallée. Faut des gens derrière si tu dis que t'as rafalé. Ta façade et ta fierté seront ravalées. Je reste dans mon coin. Faut gérer mon cas. J'parle pas de sentiments devant des javons qui n'en ressortent aucun. J'rentre pas dans vos cases. Y'a une voix qui me dit faut pas que tu partes avant d'avoir dit fuck les bacs du 15. Donc voilà, fuck les bacs du 15. Dans les coms des fans, y'a un côté SM. J'suis toujours le même comme Hugo TSR. J'suis dans le maquis, t'es du côté SS. Et l'Amérique, faut la boycotter la selle. Ouais,
j'm'en bats les reins de la chanson de l'année. C'est pas celle qu'on écoute dans l'allée. Je m'y suis frotté quand il fallait. Petit blanc infâme et nique un blanc affalé. Je regarde mon village de la falaise. Depuis des millénaires dans la vallée. Faut des gens derrière si tu dis que t'as rafalé. Ta façade et ta fierté seront ravalées.
Tu veux faire comme Fall, tu veux faire comme Nek, tu veux te faire connaître. Mais t'es plus le même quand tu te fais reconnaître. Du coup c'est plus toi qui es connu, c'est un autre. Don Dada Sen Zouli est comme un nœud. J'étais un vrai, j'avais même pas un an. Je crois à la paix mais je crois pas en l'ONU. Certains vont à l'école en pirogue et d'autres vont au casino en ubercopter. Moitié plein ou moitié vide, moi je vois le verre comme tel.
Je vois le verre comme tel.
Vous êtes l'Amérique, nous la Corée du Nord. Vous êtes les Bouches, nous c'est les Kim. Ta chaîne YouTube a goûté les clics. Chaque fois que je te vois, t'as une nouvelle équipe.
Bizarre, c'est chelou ça. Tu connais Philippe Lingo, Philippe Fuego. C'est l'agent K, c'est l'agent J.
Alpha One et Nekfeu sur la Don Dada mixtape pour le titre AAA. Voilà pour donc la pause musicale. On est toujours sur le 101.5 de Radio G, www.radio-g.fr pour ceux qui nous écoutent depuis le site internet. On va continuer avant de parler du public angevin. On va parler mode avec Faustin. Faustin, donc tu vas nous parler de mode dans le sport, tu vas nous parler de chaussures et de maillots. Et voilà, je te laisse la main.
Ouais, tout à fait. Donc j'ai démarré par les chaussures qui, en effet, prennent de plus en plus de place dans le sport en général, notamment grâce à une amélioration des technologies qui sert à tout simplement augmenter les performances des sportifs. Mais d'autre part, l'aspect esthétique prend lui aussi de plus en plus d'ampleur. Cet engouement pour les chaussures a débuté évidemment, on y revient toujours, mais dans le basket. Michael Jordan a évidemment beaucoup joué dans ce milieu, car bah, on peut le voir, hein, les paires de chaussures avec lesquelles il jouait dans les années 90 sont maintenant utilisées par beaucoup de gens dans la vie de tous les jours, comme notamment les Jordan 1, les Jordan 4, etc.
Qu'on connaît tous.
Qu'on voit beaucoup dans la rue et qui prennent en valeur commerciale.
Et ce n'est pas le seul basketteur à développer sa propre paire.
Et non, en effet, on voit que beaucoup de joueurs NBA commencent à développer leur propre modèle de chaussures à leur nom, correspondant à leurs exigences en termes de style de jeu. En utilisant les technologies dont je parlais justement, avec notamment la bulle d'air pour la marque à la virgule, ou encore la matière Boost pour la marque aux trois bandes. Ces collaborations n'ont évidemment pas uniquement lieu en NBA, mais aussi en football, même si ça reste moins développé. Mais récemment, j'ai vu passer quelque chose disant que Kylian Mbappé avait sorti lui aussi sa paire signature avec la marque à la virgule. Donc.
Alors, je te coupe, tu peux citer Nike et Adidas.
Oui. Très bien, j'étais pas sûr.
Il y a Reebok aussi, comme ça.
Voilà, ah, okay. On va faire les trois.
On a fait, je crois, les trois grosses marques du basket.
Donc, vas-y, enchaîne.
Parfait. Donc, avec Nike, voilà, où il sera obligé de la porter pour toute la saison 2022-2023 de Ligue 1, ainsi que pendant la Coupe du Monde et tous les autres matchs, finalement. Pour la plupart de ces paires, elles sont accessibles au grand public, en magasin, dans des Nike Factory, à Basket Connection, à Angers par exemple. Mais cette année, on a vu par exemple le joueur LaMelo Ball qui a sorti sa première paire signature avec lui Puma. Et chaque coloris est sorti en édition limitée, ce qui a permis à chaque paire de prendre là aussi en valeur commerciale. Et en hype, c'est-à-dire que quand je vois moi quelqu'un sur un terrain de basket avec une paire de LaMelo, je fais waouh, lui c'est un mec chaud.
Lui, il est très fort.
Ouais, voilà.
On va parler maintenant des maillots et là où la technologie peut-être est un petit peu moins importante.
Non, tout à fait, hein, même quasiment nul, sauf parfois en cyclisme.
Oui,
où,
effectivement.
Les casques, les peuvent.
C'est vrai que t'es pas d'accord.
Je suis pas tout à fait d'accord sur la technologie des maillots.
Tu penses que ça a évolué?
Ça a largement évolué. Tout ce qui est matière qu'on appelle un peu clean cool chez Adidas, ça a été une large évolution. Des maillots qui t'absorbent la sueur, qui te refroidissent le corps. Non, je pense que justement, c'est grâce au sport et que ça, c'est peut-être moins flagrant que par exemple une paire de chaussures, effectivement, où on peut voir en athlée comment ça on peut gagner des secondes très rapidement, mais je pense que ça a quand même son petit côté innovation.
Que, jouer avec des polos à l'époque bien lourds, c'est pas la même sensation sur le terrain, je pense. T'as raison.
Et donc, tu vas nous parler donc des maillots pour jouer les matchs là pour le coup.
Ouais, exactement. Donc, qui à chaque début de saison, que ce soit dans le basket ou dans le foot, crée une grande hype auprès des supporters, car il est hors de question que ton équipe joue toute une saison avec un maillot horrible. De mon point de vue, je pense que les sponsors inscrits sur le maillot jouent énormément. Sur s'il sera beau ou pas, je sais pas ce que vous en pensez.
C'est vrai.
Ça dépend du design de base, on va dire.
Ouais, moi
moins il y a de pubs, mieux c'est. Hein.
Ouais, franchement. Ouais,
j'ai en tête là le Barça qui a mis Spotify en gros. Je trouve ça dénature un peu le maillot, encore le SCO quand il y avait le Gaulois.
Il y a toujours, je le trouve sur l'extérieur là. Parce que l'extérieur, je trouve pas mal le maillot extérieur. Et avec le sponsor rouge, le Gaulois, je trouve ça moche.
On est bien d'accord.
De mémoire aussi, il y avait Bordeaux qui avait Bistro Régent, je trouvais ça pas beau aussi. Mais bon, bref, c'est... Effectivement, les sponsors, ça peut jouer. T'as raison.
On voit aussi que certains maillots prennent, comme les chaussures, en valeur économique, en fonction des événements auxquels ils ont pu participer, avec très récemment le maillot que portait Michael Jordan lors des finales 98 avec les Bulls. Qui, à votre avis, quel est le prix auquel il était vendu?
Au moins 4 chiffres.
Moi, j'ai la réponse.
Enfin, tu parles en vente boutique ou
non, en vente
enchères.
Aux enchères. Ah bon, tu peux mettre oui, peut-être au moins 6 chiffres, voire le million hein, maintenant.
Ah bah
c'est voilà, c'est
il a je te le dis, elle a été vendue à 10 millions, à plus de 10 millions de dollars.
Ouais, voilà, c'est
c'est énorme.
Faut être émirat hein, pour voir ça.
C'est clairement ça. Je crois qu'il y a que Jordan qui peut se le racheter.
Ouais. Et encore.
Oui.
Et du coup, bah, ce maillot de Michael Jordan détrône le maillot que portait Maradona lors du quart de finale de la Coupe du Monde de 86 où il avait inscrit la main de Dieu. En NBA, non, pardon, à mon avis, le maillot de Terry Tarpey. Qu'il a porté cette année à l'Euro risque lui aussi de prendre en valeur vu la performance qu'il a eue et comment il a été apprécié par les fans.
Après, est-ce qu'il atteindra 10 millions de dollars? Pas sûr.
Ça m'étonnerait.
Pas sûr,
Je pense que des maillots de Pippen pourraient.
Ouais, bah ouais. Après, le maillot de Pippen,
il y a le côté historique.
Ouais, mais comme il est gigantesque, ça fait des, ouais, une robe, contre, en fait, ouais, à la fin. Ouais. Faut être grand pour le porter.
Ouais, c'est clair.
Il y a Max qui peut le porter, mais après. Nous, peut-être moins. Vas-y, enchaîne, vas-y. Nous, peut-être moins. Ça peut être grand pour nous.
Ouais, c'est vrai. Donc, en NBA, pour la saison 2022-2023. On remarque que plusieurs équipes ont fait le choix de ressortir leur maillot vintage des années 90, ce qui n'est pas pour déplaire aux fans, car ces maillots font clairement partie des plus appréciés et, de mon point de vue, des plus beaux. Malheureusement, Toronto ne ressortira pas, lui, son maillot collector avec un raptor rouge dessiné dessus, des années 2000 que Vince Carter a si bien honoré.
Très bien, merci pour ta chronique sur la mode et le sport. Donc voilà, on parlait de chaussures et de maillots. C'est vrai que le maillot du SCO cette année, on en pense quoi? Moi, je suis assez mitigé. Je sais pas trop quoi en penser. L'espèce de diamant, on voit la DA de rester sur le diamant. Après, est-ce que ça rend bien?
Ça fait 2 ans que je suis pas forcément convaincu.
Après, effectivement, mais par contre, ça fait 2 ans que on sort des maillots traditionnels du SCO qui ne changeaient pas. Moi, je trouvais ça un peu entre guillemets insupportable de que voir que chaque année c'était les mêmes maillots,
ouais, ça.
Mais vraiment exactement les mêmes. Et ça changeait vite fait les manches et tout, mais c'était le même maillot. Alors que là, tu vois, il y a un peu de noir et tout. Bon, effectivement, après, c'était pas non plus les plus beaux à voir, mais en tout cas, voilà pour le SCO. On va parler
du SCO. C'est le maillot des Ducs cette année, édition pour les 40 ans du club.
Il est beau.
Il est très beau, ouais. Que ce soit en blanc ou en couleur classique bleue.
Ouais.
Là, pareil, il y a eu un très beau travail dessus.
Et bah, très bien. On va parler du coup, justement, avec ma chronique du jour, hein, qui va porter sur un problème du sport angevin bien trop fréquent, le manque de ferveur populaire autour du SCO. Alors, on parle beaucoup de cette équipe dans les médias, dans nos émissions même, mais le début de saison a relevé, selon moi, un vrai manque d'attachement au club de la part des spectateurs locaux, et ce, malgré des tribunes toutes neuves. Le chiffre qui m'a alarmé et qui m'a donné envie d'écrire cette chronique, notamment, c'est celui de l'affluence à Raymond Kopa lors de la 7e journée de Ligue 1 à l'occasion de la réception de Montpellier. Seulement 6165 spectateurs assistaient à la rencontre entre Angevin et Héraultais, ce qui nous donne un taux de remplissage de 31%. Pour un club qui entame sa 8e saison dans l'élite, je trouve ça assez triste. Au départ, je me disais que les gens abusaient toujours un peu en disant que l'ambiance à Raymond Kopa était un peu endormie. Mais le début de saison a commencé à m'ouvrir les yeux sur la réalité de la situation. Le public angevin est malheureusement l'un des moins bons de Ligue 1. Alors, je ne parle pas du Cop de la Butte, hein, évidemment toujours présent après tant d'années, et qui s'efforce à réveiller cet antre bien calme. Je parle du reste des tribunes, souvent désertes. Plusieurs explications sont possibles. Premièrement, le niveau de jeu de l'équipe sur le terrain, avec 2 points en 6 matchs, on comprend que l'idée de dépenser un billet pour voir une équipe en perdition n'enchante pas forcément. Mais quand on regarde Bordeaux et Saint-Etienne, on voit deux clubs historiques français qui a réalisé encore d'ailleurs l'année dernière de belles affluences. Donc l'année dernière en Ligue 1 et même cette année un échelon plus bas. Il faut le reconnaître, la ferveur scoïste ne résiste pas aux mauvaises performances du club. Cela montre un réel problème du rapport des Angevins à leur club de sport, mais on y reviendra évidemment plus tard. Deuxième explication possible, le prix des places. Alors certains prix sont abordables pour certaines places, mais pas assez homogènes pour remplir à ras-bord un stade de près de 20 000 sièges. On le rappelle, on est désormais à 19 800 sièges disponibles. Mais le pire dans ce sentiment de stade aux deux tiers vide, c'est cette nouvelle tribune présidentielle flambant neuve et hyper équipée. Alors, elle possède de nouvelles loges et de nouveaux vestiaires, mais Saint-Léonard a fait peau neuve donc, mais elle n'est plus remplie comme la tribune familiale que c'était auparavant. Réservée aux VIP et aux partenaires, elle fait à la fois peine à voir tout en ayant une belle allure puisqu'elle relie désormais Coubertin et Colombier. Et ce qui tombe très mal, c'est que cette tribune que les téléspectateurs de la Ligue 1 voient en premier lors des matchs du SCO, une belle image du club dont les observateurs commençaient à se lasser de l'image donc familiale d'Angers, une équipe maintenant vu comme un club emballant en début de saison mais rapidement décevante au fil de l'année. Les solutions sont simples, Monsieur Chaban doit prendre en main la situation et faire en sorte de remplir sa nouvelle tribune et Monsieur Baticle doit reprendre en main ses joueurs pour proposer un plus beau spectacle sur le terrain de Raymond Kopa et là peut-être que les Angevins reviendront dans les travées de leur stade. Alors justement par rapport à ce dernier point, est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que le public angevin ne se déplace que quand ses clubs se portent bien? Donc là, je ne parle pas forcément du SCO, mais de toutes les équipes en général, ou pour les grosses affiches. Oui, Cédric.
Ça a toujours été plus ou moins pour... c'est bête à dire, mais il y a peut-être qu'au hockey, même quand il n'y avait pas forcément de bonnes saisons où il y avait quand même toujours au-delà des copes, mais il y avait toujours quand même du monde pour y aller.
Ouais.
Mais c'est vrai que sur le basket, le hand et le foot,
c'est très...
dès qu'on commence à descendre aux étages inférieurs, limite on peut dire que ça diminue par deux en termes d'influence.
Bien sûr.
Et ça revient progressivement dans la saison si les résultats sont là. Et on le voit souvent quand il y a eu les montées de National en Ligue 2, par exemple, pour le SCO. Généralement, les matchs de fin de saison, et moi j'ai été le premier aussi, à aller voir ces matchs-là, on voyait que c'était rempli.
Bien sûr.
Mais dans l'ensemble, oui, après, il y a le facteur prix.
Oui,
qui augmente. C'est dur de faire des comparatifs, puisqu'il n'y a pas le même nombre de places, mais quand on voit les tarifs effectués au basket, au hockey, où on est en dessous, pour faire simple, de 20 euros.
Ouais.
Et Costco limite à 20 euros, on n'a même pas encore, je crois, une place cette année.
Cette année, ça a augmenté.
L'augmentation, elle est due à quoi? Forcément, le club a besoin d'argent. Il y a la tribune à rembourser.
Bien sûr.
Il y a sûrement aussi une augmentation qui est liée à la Ligue.
Oui, aussi, ouais.
Et voilà, il faut pas oublier que non plus c'est une entreprise. Une entreprise a besoin de faire des bénéfices. Donc voilà, mais c'est vrai que la politique des prix, en plus, qui n'est pas fixe, ça varie selon les matchs. Quand ça va être un match là pour Marseille, PSG, enfin des gros clubs à domicile, on voit une flambée de prix. Alors que le foot, c'est censé être populaire, accessible à tous.
Je suis d'accord.
Pour ton analyse, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Et même le chiffre, à la rigueur, des 30% remplis, je serais curieux de savoir combien, dans le pourcentage, il y a réellement de places achetées.
Oui.
Et les places VIP, parce que, mine de rien, comme tu le dis, il y a de plus en plus de VIP et moins de spectateurs.
Bah, Et encore, ils ne viennent pas. Enfin, il y a des places réservées aux VIP, mais voilà, ils ne viennent pas.
Bon, il y a ceux qui payent l'horloge à l'année,
oui, voilà, c'est ça.
Et qui viennent pas forcément. Donc, ça fait une rentrée d'argent, mais voilà, non, c'est ça
le problème. Tu soulevais un point intéressant sur les Ducs d'Angers. J'ai l'impression que, notamment pour le SCO, il y a un problème aussi de ferveur par rapport à l'historique des clubs. C'est-à-dire que Angers n'est pas forcément un club historique de Ligue 1, alors que les Ducs sont un club historique de Ligue Magnus.
Ouais,
tu vois ce que je veux dire?
Il y a peut-être ça aussi qui joue.
Il y a ça qui joue, parce qu'effectivement, donc voilà, il y a des villes et des clubs, qui réussissent à avoir une ferveur grâce au côté historique du club, voilà. Et au SCO, peut-être qu'on manque, de ça par rapport à ça. Et oui, c'est vrai que, voilà, il faut le dire, on l'a vu, moi j'ai vu l'affluence baisser de façon drastique au niveau du handball. En quelques années, l'affluence aussi, on l'a vu, elle a monté pour le AB. On rappelle qu'ils ont rempli Jean Bouin et même un peu plus pour le match de la montée. Et après, voilà, le problème, c'est que il n'y a pas forcément de solution pour amener les gens. Parce qu'effectivement, tu disais, c'est une question d'argent.
Il y a sûrement des solutions. Mais est-ce qu'elles sont possibles d'être mises en place pour l'instant ? C'est pas forcément évident pour tous les clubs.
Ouais, les clubs sont un peu prisonniers de cette situation. Ils doivent faire de l'argent, ils doivent des prix abordables.
Mais on verra par exemple avec le Hand.
Oui.
Qui a repris l'antre historique du hockey, qui est situé en centre-ville.
Oui, c'est peut-être.
Et ça, peut-être que pour le Hand, ça va être un atout parce que il y a aussi ça à voir, c'est que quand on va à Jean Bouin.
C'est un peu plus loin, c'est excentré.
C'est excentré. Il n'y a pas forcément de bus après pour aller directement dans le centre-ville. Il y a juste à côté le géant, mais on se retrouve avec du fast-food. Il n'y a pas forcément de bar. Donc, il y a c'est des petites choses aussi comme ça qui peuvent faire que les gens n'ont pas forcément envie, besoin d'y aller. Et on voit que l'Ice Park, voilà, qui est bien rempli autour, et puis là, ça va s'améliorer encore avec l'arrivée d'une nouvelle salle. Donc, c'est des petites choses comme ça, voilà, qui font aussi. Qui peuvent influencer, je pense.
Faustin, je vais te demander ton avis juste après. Je vais faire un point sur notamment les complexes sportifs, notamment pour les professionnels qu'on peut retrouver au niveau d'Angers. J'ai fait un petit focus. Il y a Jean Bouin, effectivement, on le connaît tous, la salle Jean Bouin, située du côté de la Madeleine Saint-Léonard, avec 3000 places, qui abrite les matchs de l'Étoile Angers Basket et de l'UFAB. Il y a Raymond Coppa qui est juste à côté, donc toujours à la Madeleine, 19 800 places avec le SCO. On a la salle du Hara donc en centre-ville avec 1260 places, celle qui a donc qui était autrefois une patinoire donc avec le SCO Handball. Il y a la Ice Park du côté donc de Saint-Serge, c'est vrai que ça c'est quand même aussi proche du centre-ville. Le nouvel écrin des Ducs d'Angers de 3586 places
et proche du coup aussi de la fac.
Effectivement, donc
on sait que voilà
le Puck Angevin notamment, et ça a attiré les
mais
étudiants.
Aussi de base le club a toujours eu des partenariats aussi avec et propose des tarifs
aux étudiants.
Puis voilà, c'est voilà, des petites choses aussi
à mettre en place. Et puis enfin, il y a une nouvelle salle qui est arrivée récemment, c'est la salle de l'Europe à Montplaisir avec 957 places. C'est là notamment où évolueront les Loups d'Angers mais aussi les espoirs de l'UFAB 49 et pourquoi pas je crois aussi les entraînements de l'UFAB. En tout cas, voilà pour les complexes sportifs. Toi Faustin, est-ce que tu as ce sentiment aussi que les clubs angevins ont du mal à trouver leurs supporters quand ça va mal pour eux?
Bah ouais, c'est vraiment dommage en plus hein, parce que c'est pas l'attitude qu'il faut avoir, parce que c'est limite un cercle vicieux de faire ça en plus.
Oui,
tu perds, il y a moins de gens, t'as moins l'envie de jouer, de gagner, donc tu perds encore.
Ouais, ça. Voilà.
Mais je sais pas trop quoi dire, mais au SCO, moi c'est vrai que si je prends mon expérience personnelle, j'y suis allé l'année dernière contre Lille et voir le tout dernier match parce que justement c'était grosse équipe et tout dernier match, je sais qu'il allait y avoir de l'ambiance. Et cette année, je suis allé au premier match. Voilà, c'était le premier match. C'était derby, pareil. Derby. Je sais qu'il allait y avoir de l'ambiance.
Pour le coup, il y avait un peu plus de monde au derby.
Ouais, là, ça allait. C'est encore heureux, j'ai envie de dire.
Oui, c'est un derby, oui.
Même si on voyait quand même que la tribune supporter de Nantes était limite plus pleine que le.
Et c'est sûrement plus de bruit, d'ailleurs.
Oui, j'y étais. Donc, pour moi, c'était plus de bruit du côté du SCO parce que j'étais en plein milieu.
Bien sûr.
Je suis allé aussi contre Brest. Là, j'étais en face. Et c'est vrai que bon, ça manque d'une ferveur de tout le stade. Quoi. Des fois, il y a le cop qui essayait de chanter tout le stade avec nous, machin. Et ça prend quasiment jamais. Quoi.
C'est un problème que le puck rencontrait notamment aussi.
Ouais.
Ils sont partis eux de ce constat-là. C'est vrai qu'à l'époque, quand il y avait juste les Raptors, il n'y avait pas forcément de réponse en fait en face pour pour se renvoyer la balle. Et c'est vrai qu'on voit ça dans beaucoup de clubs. Il y a souvent deux copes qui sont en opposition. Comme ça, les champs partent d'un coin, vont vers l'autre et ça repart et ça bouge dans tout le stade. Et là, c'est vrai que par exemple, depuis qu'il y a deux pucks, ça a ramené une ambiance un peu plus forte.
Donc voilà, c'est vrai que c'est un thème assez intéressant. On pourra en parler, on recevra sûrement les pucks dans la saison et c'est un sujet vraiment assez intéressant au niveau du public en juin.
On va peut-être faire un petit pointage direct.
Bon, après, il y a le générique qui va se lancer.
Ouais. 2-0 pour Angers, justement, contre Chamonix.
Parfait. Une soirée qui commence bien.
Dans le deuxième tiers-temps.
Très bien. On va vous laisser avec la suite des programmes. Tout de suite, c'est Imaginaire. Et puis, nous, on se retrouve, j'ai envie de dire, même jour, même heure, mardi 20h sur Radio G. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée.